Bienvenue dans le Mac de l'été du week-end. Aujourd'hui, nous irons danser, rêver, nous poétiser, nous déchaîner jusqu'à devenir nous-mêmes peut-être la horde avec Rhawn qui sera en live pour deux titres de son dernier album Room with a View. 18h40, la chronique cinéma de Christine Masson et 18h45, encore du live, cette fois-ci avec Nawel Benkrayem qui nous dévoilera un morceau de son futur opus Délivrance. Le Mac de l'été peut commencer.
France Inter. Le Mac de l'été. Émilie Blum-Metzinger.
Tout ne serait-il donc que manichéen ? N'y aurait-il pas quelque part un espace préservé qui nous abriterait des forces contraires qui n'existent que pour s'opposer ? Pour trouver peut-être ce point de suspens qui nous permettrait de marcher sur un fil sans tomber jamais, ni d'un côté ni de l'autre, il nous faut nous poser des questions et pour y répondre, faire un choix. Cornélien fut-il pour Ichon avec son frère de cœur Lovni ? On les écoute tous les deux dans « Noir ou blanc ». Noir ou blanc, Ichon et Lovni, extrait du futur album pour de vrai de Ichon qui sortira le 11 septembre. Et en attendant, vous pouvez toujours vous sustenter de ce titre dans la playlist estivale de France Inter.
Le Mac de l'été, musique.
Je reçois celui qui sans cesse compresse nos cœurs et nos artères, de lignes électro lancinantes de Spanish Breakfast à Tohubohu en passant par Britten plus orchestre symphonique. Il est celui pour qui le rêve est une matière première. Son nouvel album s'appelle Room with a View. Bonjour Rhawn.
Bonsoir Amélie.
Alors, on parle de votre nouvel album, mais avant d'être un album, c'est d'abord un spectacle que vous avez imaginé avec La Horde, qui est un collectif à la tête du Ballet National de Marseille et qui a rassemblé autour de vous 20 danseurs, danseuses. Comment vous sont venues l'idée et l'envie de travailler avec eux?
C'est parti en fait d'une invitation de Ruth McKenzie, la directrice du Théâtre du Châtelet, à créer un spectacle, elle m'a donné 10 dates comme ça au Châtelet, ce qui est un luxe énorme évidemment, et puis une carte blanche surtout, où elle m'a dit qu'est-ce qui t'intéresserait, qu'est-ce que t'aimerais faire, et tout était à peu près possible, et j'avais très envie de travailler avec des danseurs, et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à la Horde, un collectif avec lequel j'étais en contact depuis un moment, qui prenait la tête du Ballet National de Marseille, et on s'est retrouvés à travailler ensemble sur ce projet, Room of the View, qui est à la fois un spectacle et un album.
Vous aviez déjà quelques maquettes quand vous les avez rencontrées. En quelle mesure elles ont littéralement évolué au contact des danseurs et de la scène?
J'avais un petit peu de matière parce que j'arrivais à la fin de la tournée du précédent album, Mirapolis, et voilà, j'avais l'intention de faire un nouvel album, donc j'avais commencé comme ça à bricoler des choses, mais à partir du moment où on s'est lancé dans l'écriture de ce spectacle avec des thèmes, et ben là oui, effectivement les morceaux ont pris une direction un peu différente, ils ont pris une forme différente, et surtout au contact des danseurs effectivement, parce que je travaillais surtout dans mon studio à Montreuil, mais je suis allé les voir souvent à Marseille pendant leurs répétitions, où je jouais mes maquettes, mes démos qui étaient pas encore très abouties, mais je les voyais bouger dessus, et en fonction de ce que je voyais, je faisais évoluer les morceaux, donc ils ont vraiment une part importante dans cet album.
Mais d'ailleurs, quand vous avez commencé à rêver ce projet, je ne sais pas si vous les aviez déjà rencontrés ou pas, enfin la Horde, oui, mais en tout cas les 20 danseurs, danseuses, je lisais que vous aviez des photos dans votre studio, justement à Montreuil. Et comment ça, en fait, de leur physionomie, de leur regard, vous projetiez, vous imaginiez les mouvements potentiels qu'ils allaient faire sur la musique que vous proposiez?
Oui, ben c'est vrai que je me souviens de la première rencontre quand on me les a présentés. Eux, ils découvraient aussi, c'est des danseurs qui viennent du monde entier, en fait, il y a de tous les pays. Et voilà, ils découvraient Marseille, ils sont arrivés, on s'est tous rencontrés un peu en même temps, en fait, hein, ils rencontraient la Horde. Donc c'était vraiment ce projet, voilà, nous a tous unis. Il y avait vraiment cet aspect collectif et en même temps avec plein de personnalités, d'individualités très fortes. Et ça m'a beaucoup plu aussi, d'apprendre à les connaître un peu mieux. Et c'est vrai que comme il y avait cette distance, moi je retournais dans mon studio à Montreuil et que quand même j'avais envie vraiment que la musique soit habitée par eux. Et ben j'avais effectivement des photos d'eux et puis quelques vidéos à chaque fois que j'allais les voir, je les filmais danser et tout ça. Et puis je les ai enregistrés aussi sur l'album, j'ai enregistré les répétitions, leur respiration, leur bruit de pas sur le sol, pour qu'ils soient vraiment présents dans la musique et dans le disque.
J'en viens à la création, si ce n'est le jour J, en tout cas dans les répétitions, où là c'est plus avancé, au Théâtre du Châtelet. Il y a ce jour où quand même vous faites des tests avec les acousticiens du Châtelet pour savoir si l'énorme lustre du théâtre va résister aux kilos de sons que vous alliez envoyer. Ouais. Est-ce que vous avez dû revoir à la baisse un petit peu tout ça ou pas?
Il y a eu un petit coup de flip, parce qu'effectivement on n'avait pas réalisé. Moi j'avais prévu quand même d'envoyer quand même par moment des grosses basses. Et c'est vrai que bon, c'est pas la salle classique dans laquelle j'ai l'habitude de jouer, c'est pas un club, voilà. Et donc il y a cet énorme lustre magnifique et on sentait qu'effectivement il vibrait un peu au son des infrabasses. Mais voilà, les acousticiens nous ont rassurés, on a trouvé des solutions avec mon ingé son et tout ça. Et voilà.
C'est dingue, c'est la deuxième fois que je passe un morceau de Run à bord et que des dauphins font surface tout autour du bateau. C'est très étrange, à chaque fois que je le joue, ils viennent. Regardez, c'est dingue. Il y a un groupe de 15 dauphins ici, 25 là-bas, et peut-être une trentaine au fond qui arrivent vers moi.
Rune, votre musique attire les dauphins et les baleines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et ça, c'est complètement fou. C'est très, très, très émouvant, très drôle aussi, je trouve. Bon, je pense que c'est j'allais dire une blague. Non, parce que ça marche.
Hein, et ça a été vérifié par plusieurs marins, parce que quand même, on a dit oui, c'est une blague, mais non, il y en a plusieurs.
Non, ça a l'air de marcher, ça marche. Après, voilà, ce que je pense, j'ai pas vraiment approfondi la question, mais je pense que c'est une histoire de fréquence, justement d'infrabasse, peut-être, de choses comme ça qui les attirent. Je me suis un peu renseigné quand même, et je sais que les marins qui étudient un peu comme ça, les cétacés, tout ça, utilisent des instruments sonores pour les attirer. Donc, il doit y avoir une histoire de fréquence. Mais j'étudierai ça en profondeur parce que ça m'intéresse. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup ému, hein. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est devenu assez viral. Il y a plein de marins du monde entier qui m'envoient des vidéos.
Ça marche aussi pour moi.
C'est cool. Super. Oui. Ça marche. Oui. Ça, c'est chouette.
J'en reviens à votre album. Vous le disiez, les danseurs sont extrêmement présents. On entend leur voix, on entend leur pas, on entend leur souffle. Et en fait, plus votre musique est épurée, plus elle les porte. J'ai l'impression. Comment est-ce que vous avez géré cet équilibre-là ?
C'est très juste. C'est vrai que moi, quand j'arrivais avec des maquettes qui étaient un peu trop fournies, un peu trop denses, je sentais qu'ils étaient un petit peu, qu'ils manquaient un peu d'air et d'espace pour s'exprimer. Et donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que ça m'a obligé à être plus épuré dans ma manière de produire la musique. Et j'y pensais depuis un moment, en fait. C'est marrant, dans mon son, j'avais l'intention d'aller... Vraiment, le but ultime, ça serait l'esquisse japonaise, un trait, un son comme ça qui fait vibrer et pas en faire trop, pas des couches d'arrangement et tout ça. Et là, ils m'ont vraiment poussé sans le vouloir dans ce sens, une musique très épurée. Et j'allais dans cette direction parce que je sentais que c'est là-dessus qu'ils étaient le plus à l'aise.
C'est pas un spectacle où il y a Rhône d'un côté qui fait de la musique et des danseurs de l'autre côté qui font des pirouettes. Il y a vraiment une fusion entre vous, tous ensemble. Et il y a d'ailleurs un moment où cette horde vous porte. Comment est-ce que vous avez géré ça en répétition ? Est-ce qu'il y a eu un petit moment d'angoisse ? Ils vont me lâcher.
Non, j'avais super... peut-être la première fois qu'on a fait un porté comme ça, c'était tout nouveau pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais en fait, très vite, il y a une confiance. C'est vraiment des professionnels, c'est des athlètes.
Oui, des sportifs de haut niveau.
Et donc, vraiment, il y a une confiance totale. Ils peuvent m'envoyer valdinguer dans tous les sens. Je sais qu'ils me rattraperont. C'est assez agréable d'ailleurs. C'est vraiment ce truc de confiance. Ça me fait penser à l'espèce de test là où on te bascule en arrière, les yeux fermés, et tes copains te rattrapent.
C'est le test de confiance.
Voilà. Et ben là, j'ai un peu vécu ça avec eux. Ouais.
Rhône, vous proposez du live à nos auditeurs. Je crois que ça va être le moment.
Oui.
Je vous laisse rejoindre vos machines, bon, qui ne sont pas quand même si loin du micro, mais maintenant on sait que vous savez faire le grand écart. J'attends le porté de la horde qui va peut-être lancer Rhône jusqu'à son ordinateur. On est en direct du 621 sur France Inter. Et pour savoir de quoi on parle, eh ben en fait on va écouter le titre qui a donné son nom à l'album Room with a View. Thank you. With a View, Rhône, en live dans le Mac de l'été, qui de nouveau va sauter de ses machines jusqu'à son micro. C'est le nom du spectacle qui a été créé avec la Horde, le Ballet National de Marseille. Tout ça au Théâtre du Châtelet, c'était au mois de mars de cette année. Et d'ailleurs, il y a un clip absolument incroyable que vous avez tourné, je crois, la veille même du confinement. Vous parliez de voler, il y a une danseuse qui vole, son visage est complètement déformé par, je sais pas, une espèce de soufflerie géante.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que c'est, enfin, elle est lancée par deux danseurs, on sait pas trop si elle est élastique, si
c'est Sarah, un... c'est Sarah, une danseuse incroyable, une belge, qui effectivement, c'est une espèce de poupée, de chiffon, une danseuse incroyable, moi elle me fascine et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est maltraitée comme ça dans
oui.
le spectacle. Bon, encore une fois, c'est une athlète de haut niveau.
Elle revient le lendemain.
Oui, voilà, elle sait exactement ce qu'elle fait et tout, mais il y a, je sais qu'ils ont fait des ateliers avec des circassiens, ils ont été entraînés comme ça par des acrobates et tout ça. Et oui, c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'elle dégage. En plus, elle est toute petite, elle a l'air toute fragile comme ça quand on la voit et ça dégage aussi une puissance, quand même une force assez dingue.
Tous ensemble, vous arrivez à dialoguer sans mots, même s'il y en a quelques-uns, mais bien évidemment, ça se passe plutôt dans les corps. Quelle place vous avez accordée au silence dans la création ?
Ah, ben ça, c'est vrai que moi, dès le début, j'ai dit à la Horde que je voulais pas que ça soit un concert sur lequel ils viennent faire danser des danseurs. Il fallait que ça soit qu'on raconte quelque chose. Et j'avais effectivement, je disais, si c'est nécessaire, il faut qu'on mette du silence, qu'on crée des zones comme ça de tension aussi, avec du sound design. Le silence a pris une place importante en fait. C'est pas un enchaînement de morceaux comme ça. Il fallait vraiment jouer avec pour que justement jouer sur les contrastes aussi. Il y a des morceaux très doux, d'autres très brutaux, des moments de silence, de calme et de tempête en fait.
Au Châtelet, le lustre n'est pas tombé, mais à la Générale, vous avez eu quand même quelques problèmes techniques, je crois, sur les machines, un danseur qui se foule la cheville, les voisins qui se plaignent du son. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez monté le petit escalier là qui vous mène jusqu'à vos machines ?
Ben, c'était très très étrange pour moi parce que je crois que c'est peut-être l'un des spectacles les plus gros, les plus ambitieux, qui impliquait le plus de gens que j'ai fait de ma vie. Et pourtant, j'étais très serein. Et je crois que c'est justement dû au fait qu'on était un collectif et qu'on était tous ensemble et que s'il y en avait un qui avait un problème, un danseur qui était blessé, on trouvait une solution, il était remplacé par un autre. Et je sais pas, il y avait quelque chose de très très rassurant comme ça, être tous ensemble. Je dis ça parce que voilà, moi je suis très anxieux et quand je fais un concert tout seul, quand je me retrouve seul sur scène, là je peux avoir des vraies crises d'angoisse avant de monter sur scène dans un festival où il y a 10 000 personnes. Ça peut être très angoissant pour moi, mais j'adore toujours. Une fois que je suis sur scène, ça disparaît, c'est que du plaisir. Mais il y a cette espèce d'angoisse avant de monter sur scène que j'ai pas eu du tout durant ces 2 semaines, et malgré tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, parce qu'il y en avait effectivement beaucoup.
Et beaucoup d'émotions au salut.
Ça c'est vrai. Que, oui. Ben oui, en fait, voilà, sans trop dévoiler le final, il y a quand même un moment où les danseurs sont face à moi, je vois leur visage, ils ont tout donné. Il y a de la transpiration, il y a de la fatigue, mais il y a des regards dingues et qui me faisaient pleurer quasiment tous les soirs en fait. Et c'est juste avant le salut, donc effectivement j'étais souvent un petit peu en pleurs au salut, mais vraiment de joie et d'émotion en fait.
Redéfinir un nouvel imaginaire, c'est-à-dire écrire une nouvelle mythologie et travailler les symboles, c'est le plus important. Parce que beaucoup de nos actions sont mises en œuvre non pas pour ce qu'elles sont, mais pour acheter le regard de l'autre.
Si tu passes pas par des percepts, par des affects, c'est-à-dire des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés, et souvent ils sont modifiés par là, alors ton comportement va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout d'un coup, ta perception a tourné.
Rhône, on écoutait un très court extrait de Nouveau Monde qui se trouve dans votre album. Vous y explorez les pistes de réflexion de votre ami et poète Alain Damasio, que vous connaissez depuis longtemps, et également de l'astrophysicien Aurélien Barou. Vous croyez à la possibilité d'un nouveau monde ?
Oui, bah oui. Enfin, sinon, si j'y crois plus, ce serait vraiment désespérant. J'ai des petits coups de mou, je suis un peu pessimiste, mais j'essaye d'être par réflexe. Je suis optimiste. Et justement, c'est Aurélien Barou qui donne des vérités, qui dit des vérités implacables et qui sont assez terrifiantes, a un effet sur moi plutôt combatif et plutôt, l'envie d'essayer de changer des choses et d'y croire encore, parce que Mais voilà, c'est quelqu'un, effectivement, Aurélien Barraud, bon, Damasio, c'est effectivement mon vieil ami, et c'est toujours, chacune de ces prises de parole est toujours aussi passionnante. Et Aurélien, là, c'était génial, parce que tout d'un coup, il y avait Aurélien Barraud en face de lui, qui est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais qu'on entende un peu plus. Et ensemble, j'avais l'impression qu'il, cette espèce de discussion qu'ils avaient entre eux, j'avais l'impression que ça ouvrait des petites portes de réflexion intéressantes et j'avais envie de les mettre sur un morceau pour porter leurs paroles que je serais incapable de porter moi-même, enfin de prononcer moi-même.
En parlant d'ouverture, vous en avez une sacrée quand même, c'est-à-dire qu'on parlait des dauphins, des baleines et de l'océan tout à l'heure, mais il y a quand même une de vos chansons que la NASA a embarquée sur Mars. C'est, donc vous faites les tréfonds sous-marins et puis le grand tout céleste. Vous étiez au courant? Enfin, ils vous ont demandé la permission d'embarquer sur Mars une de vos chansons ou pas?
Bien sûr, oui. En fait, ils ont contacté mon label, mon management et bon, c'était oui encore un truc un peu dingue qui nous tombe dessus. La NASA aimerait utiliser un morceau.
Non,
il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Ben ça, c'est exactement comme quand Greta Thunberg m'avait demandé d'utiliser une musique sur une petite vidéo où elle s'exprimait, tout ça. J'ai l'impression que oui, ça me dépasse complètement en fait. C'est vrai que c'est marrant, c'est des choses qui me tombent dessus comme ça, complètement gigantesques, qui me dépassent, mais avec un aspect à la fois super poétique, l'espace, voilà, l'infini. Moi, ça nous fait relativiser. On est des petites fourmis, et donc ça me parle beaucoup. Et je suis très content et très fier.
Vous irez attirer les dauphins martiens, si tant est qu'il y en ait. Un dernier mini-mot avant votre deuxième live sur votre rapport au sommeil et l'état de demi-conscience dans lequel vous arrivez à créer.
Oui, ben c'est vrai qu'on se moque beaucoup de moi parce que je dors tout le temps, je dors beaucoup et je fais beaucoup de siestes quoi en fait et j'adore ça. Des siestes alors en fait voilà, c'est moi je réponds que ce sont des siestes créatives, des siestes productives, c'est des moments où en fait il se passe plein de choses pour moi dans ma tête et tout ça et généralement c'est vrai que la plupart de mes morceaux sont composés après une bonne sieste. Oui, je sais pas, il se passe parce que justement aussi c'est des siestes, c'est pas le sommeil profond, voilà, c'est pas des nuits entières, c'est juste des petits sommes où je suis dans un état semi-conscient et je crois qu'il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau neurobiologique. Je sais pas. Je sais que Dali faisait ça, là, ce truc de faire une sieste.
Oui, la petite cuillère, là. Et paf, qu'il réveillait quand elle tombait des micro-siestes. Rune, vous êtes en état de conscience absolue. Vous pouvez de nouveau regagner vos machines, vous offrir un deuxième live à nos auditeurs sur France Inter. Et alors, cette fois-ci, voilà, on part de nouveau dans le grand tout. Votre titre s'appelle Human. On vous écoute.
Thank you.
Human. Rhône, en live, dans le mec de l'été. Votre album s'appelle Room with a View. Il est sorti chez Infine. Vous serez en concert le 8 octobre à Neuchâtel, le 10 à Saint-Denis de la Réunion. Je dis que tout va arriver au Trianon à Paris le 11 décembre, mais c'est complet. Et on vous attend en juin 2021 aussi avec l'Orchestre National de Lyon à l'Auditorium pour une création électro-symphonique. Merci beaucoup, Rhône.
Merci, Émilie. Merci beaucoup.
Le mac de l'été sur France Inter.
Je la reconnais, impétueuse et divagante, c'est la culture dans le mac de l'été. Retour en 1228 sous le règne de Saint-Louis, avec l'aide de sa maman, Blanche de Castille, à la demande de son papa Louis VIII, notre roi fit construire l'abbaye de Royaumont. Passée depuis entre les mains de moines cisterciens, de Mazarin, de Richelieu, puis transformée en industrie textile, l'ancien monastère est aujourd'hui classé aux monuments historiques et s'impose comme un lieu de recherche, de formation et de production artistique. Demain à 15h30, au bord de ses canaux et à travers ses jardins, vous pourrez y voir, à l'ouest de l'Oural, une chorégraphie des deux danseuses Caroline Grosjean et Magali Albespi. Et dimanche prochain, même lieu, même heure, un concert de la flûtiste Naïssam Dialal et du contrebassiste Claude Tchamitian. Journée d'été à l'ombre des grands arbres jusqu'au 30 août à l'abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise.
Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque?
Je ne sais pas, Judas.
Direction Châlons en Champagne et son CNAC, Centre National des Arts du Cirque. Après 3 années de formation intensive, les 15 étudiants, circassiens, circassiennes, de la 32e promotion s'apprêtent à s'envoler de leurs propres ailes. Ils viennent de France, du Chili, d'Espagne, d'Italie, du Maroc, du Portugal et de Colombie. Et comme de coutume, avant de ranger définitivement leur casier d'écolier, chacun présentera son projet individuel. Cette année, 13 disciplines qui oscillent entre ciel et terre, accro danse, acrobatie, trapèze, machinois, équilibre sur vélo, jonglerie, corde volante ou corde lisse, sangle, fil et roue allemande. Échappée pour du rêve en hauteur, du 26 au 29 août au cirque historique de Châlons-en-Champagne. Dans le mag de l'été, direction Paris pour la prochaine édition du Festival Manifeste avec le Centre Pompidou et l'IRCAM, Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique. Pour en parler, je reçois le directeur de l'IRCAM. Bonjour Franck Madlener.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous présenter le concept de cette nouvelle édition du Festival Manifeste?
Oui, alors l'IRCAM, c'est une fabrique de rêves sonores, hein, où des musiciens, des chercheurs, des ingénieurs travaillent ensemble, ils produisent leur folie, leur innovation, et Manifeste, ce festival, est la vitrine qui va exposer au grand public ses aventures, ses œuvres, qui peuvent être séduisantes, intrigantes, ou tout simplement belles. Donc ça peut être des concerts, installations, du spectacle vivant, toutes les formes de création sonore.
L'événement signera aussi la réouverture de la grande salle du Centre Pompidou, mais je crois que les spectateurs pourront aussi être accueillis dans d'autres lieux à Paris. Quels seront-ils ?
Oui, on est très axé au Centre Pompidou, hein. C'est un lieu lié à l'histoire de l'IRCAM, mais on va être également présent au Théâtre de Gennevilliers, notamment pour des concerts, une installation sonore, et puis dans un lieu un peu inattendu, les jardins du Palais Royal. On a imaginé avec le Théâtre du Châtelet, justement dont parlait Ron il y a peu de temps, un chœur d'arbres chantants. Donc ce sont des arbres qui vont chanter littéralement, et puis si le ciel de Paris est pollué, ce qui n'arrive jamais,
bien évidemment.
C'est d'anthropocène sonore. Voilà. Et donc c'est un festival qui est très axé, son leitmotiv, autour de la voix de ses sortilèges. Donc la voix de l'arbre, mais pas seulement, je vous rassure, la voix du chanteur, du compositeur, la voix de synthèse, les voix transformées par la techno, et puis aussi les voix des fictions. On va donc lancer une collection qui s'appelle les musiques fictions. On part d'un roman contemporain adapté, enregistré par des acteurs, mixé à une création électronique. Et ces fictions vont être diffusées sous un dôme de haut-parleurs ambisoniques. Donc vous serez, vous, auditeurs, littéralement immergés, plongés dans l'univers de Maëlys de Kerangal ou d'Annie Ernaux. Il n'y a rien à voir, il y a tout à entendre. C'est un peu comme à la radio.
Vous proposez également des concerts et je crois même que vous allez faire revivre quelque temps Billie Holiday ou encore Edith Piaf.
Oui, puisqu'on parle de voix, il y a évidemment des icônes vocales. Les deux noms cités, Billie Holiday, Edith Piaf ou Elisabeth Schwarzkopf, sont des icônes enregistrées. Et on parvient aujourd'hui, en maîtrisant la technologie, à mêler un pianiste vivant, ce sera Hervé Selin, avec ses voix. Alors vous connaissez bien entendu le karaoké, c'est une ineptie qu'on s'inflige entre amis. Eh bien ici, c'est le karaoké inversé. C'est-à-dire que l'enregistrement, l'archive, l'icône vont suivre littéralement le musicien en scène grâce aux agents numériques. C'est vraiment de la co-création entre l'homme et la machine, entre le vivant et l'archive, entre le patrimoine et la création. Et ce sera le 5 septembre sur la grande scène du Centre Pompidou.
Merci beaucoup Franck Madlener. Je rappelle que le festival Manifeste Musique Fiction se déroulera du 31 août au 13 septembre avec également une diffusion, une spatialisation binaurale du son. Plusieurs lieux parisiens. Renseignements sur manifeste2020.ircam.fr. Dans le Mac de l'été, 18h40, on part au cinéma.
Have you planned your vacation yet?
On ira loin tous les deux, hein?
C'est l'avant-dernier voyage de votre chronique « On ira loin », Christine Masson. Un voyage immobile dont le moyen de transport cinéma serait l'imagination. Voyager entre les quatre murs d'une cellule ou sur un bateau ancré en pleine mer du Nord.
Kiss of the Spider-Woman.
C'est fou la puissance des mots. Dans cette cellule de prison, un détenu fait partager ses rêves à l'autre prisonnier enfermé avec lui. Il lui raconte des histoires et des films dans le film.
Once upon a time, in a tropical island far away, there lived a strange woman.
Le baiser de la femme araignée, 1985, signé du Brésilien Hector Babenco. C'est Molina William Hurt, un homosexuel condamné pour une affaire de mœurs, qui livre son imaginaire débridé à Valentine Raoul Julia, prisonnier politique dans ce pays d'Amérique du Sud. Un grand voyage fictionnel dans la réalité d'un régime totalitaire, un huis clos onirique et tragique pour dénoncer la répression sexuelle, idéologique et physique d'une dictature, un pur voyage de cinéma.
It's wonderful radio rock.
Are you doing something dirty? Are you doing something your parents don't know about?
Nous sommes dans les années 60 et le gouvernement anglais interdit aux radios pirates d'émettre.
Alors une petite fréquence, Radio Rock, a décidé de contourner l'interdiction en s'installant dans un cargo en pleine mer du Nord, dans les eaux internationales. Et dans ce bateau, des DJ timbrés et passionnés vont faire voyager en musique toute la jeunesse britannique. Tout cela est raconté dans ce merveilleux film « Good Morning England » 2009 et signé Richard Curtis, le réalisateur de « Love Actually » et scénariste notamment de « Coup de foudre à Notting Hill ». Bref, un type qui sait ce que c'est qu'une comédie.
It's 9 o'clock at night and adult dudes on the planet are sitting in their slippers, sipping their sherries. But the people who love to rock and to roll are ready to ride the rock and roller coaster once more and rock all day and all of the night.
Orgie, beuverie et apprentissage musical pour Carl, le jeune protagoniste de cette histoire, entouré de remarquables acteurs parmi lesquels Bill Nighy, Nick Frost ou Philip Seymour Hoffman, plus une BO mortelle.
Now there is one final matter to discuss. Pirate radio.
They are a sewer of
low morals.
Could I introduce Carl, my godson?
32 titres parmi les plus célèbres de cette décennie. Bowie, The Who, Turtles, Jeff Beck ou les Beach Boys.
On ira loin, la chronique Cinéma Transport de Christine Masson à réécouter, podcaster sur franceinter.fr ou sur notre appli.
Émilie Blond-Metzinger, le Mac de l'été sur France Inter.
Après le cinéma, retour à la musique. Le Mac de l'été reçoit l'autrice, compositrice, interprète et actrice Nawel Benkrayem qui sortira son nouvel album Délivrance le 25 septembre. Avant d'en parler, on découvre un titre en live. Nassim Kouti est à la guitare et Nawel Benkrayem, bien évidemment, au chant. On écoute ensemble ce titre Denden City en live.
Yeli, yeli, yeli. I came in my dream in Denden City. I didn't recognize my own country. Oh, please, in holiday, let me travel away. I just need to go on the other side of the sea. Please, in holiday, let me travel away. I really need to go the other side of the sea. Nari, nari, shbash nahki lil'ummi. Nari, nari, nkhaf ma nansa lwaqti. Nari, nari, shbash nahki lil'ummi. Nari, nari, ala wulidati. 'Cause I came in my dream and oh, I just wanna go to. Oh, please, in only daylight, oh, I really need to go to. Oh, I came in my dream and oh, I just wanna go to. Oh, please, in only daylight, I really need to go. I got my ticket always in my pocket, just waiting for the good, mom and the good event. Please, in holiday, let me travel away. I just need to go on the other side of the sea. Please, in holiday, let me travel away. I really need to go on the other side of Aywa. Nari, nari, ish bish nahki lil'ummi. Nari, nari, nkhaf ma nansa lwaqti. Nari, nari, باش نحكي لأمي. ناري ناري على وليداتي. Mama, my people are rich at the end of the bridge. Mama, my people are strong than I'm from where they belong. Mama, 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 mama. Oh, na, 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 na. Oh, mama, people are rich at the end of the bridge. Mama, my people are strong than I'm from where they belong. Mama, 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 mama. Oh, na, na. Nari, nari, باش نحكي لأمي. Nari, nari, nkhaf ma nansa lwaqti. Nari, nari, shbash nahki lil'ummi. Nari, nari, ala wulidati. O nari, nari, o nari, nari, o nari, nari.
Nawel Benkrayem en live dans le Mac de l'été avec Nassim Kouti à la guitare. Extrait, on écoutait Denden City, un prémisse du nouvel album Délivrance de Nawel Benkrayem qui sortira le 25 septembre chez Capitol. Bonsoir Nawel Benkrayem.
Bonsoir.
Denden City, ce qu'on écoutait, vous aviez déjà fait une petite incursion sur ce titre il y a bien des années de ça dans une version qui n'avait absolument rien à voir. Comment est-ce que vous avez repensé tout ça, ces textes, ces mélodies, sa production pour porter une ville qui vous est si chère?
Ouais, Denden, donc c'est un quartier de Tunis, c'est là où j'ai grandi et dont je reviens, puisqu'on est, je suis rentrée hier de vacances. Et en fait, c'est vrai que c'est une chanson que j'ai écrite il y a assez longtemps et que je continuais à chanter en concert, mais qui n'avait pas trouvé sa place dans mes précédents albums EP, voilà, enfin EP plutôt, mais bon. La différence, des fois, c'est... Enfin, il y a une telle implication quand on fait quelque chose. Mais bref, ça n'avait pas trouvé sa place. Et là, cet album porte bien son nom de Délivrance, puisque j'ai plus de place. C'est un vrai LP, du coup, un vrai album. Et elle a trouvé sa place assez facilement dans ce... voyage où il y a plusieurs couleurs en fait dans l'album, dont une couleur un peu décalée qui me tient à cœur. Et ce titre est particulièrement décalé. Il est en anglais, il a une rythmique un peu country du bled comme ça, et ça avait du sens qu'il soit là à ce moment-là de l'album.
Vous parliez de l'anglais, en fait, justement dans votre album il y a de l'anglais, de l'arabe, du français. Comment est-ce que vous gérez comme ça l'équilibre ou pas d'ailleurs des langues, en tout cas comment les titres vous viennent dans une langue plutôt qu'une autre?
Ça ressemble assez à mon quotidien où j'utilise les deux langues surtout, donc l'arabe et le français, et particulièrement le dialecte tunisien et le français, un petit peu de dialecte algérien aussi de par la famille que je construis, parce que du coup en France je fréquente aussi beaucoup d'Algériens, et du coup il se trouve qu'il y a le dialecte tunisien beaucoup, un petit peu de dialecte algérien, mais c'est pas de l'arabe littéraire quoi, et c'est un choix vraiment de que ma matière poétique ce soit celle qui est celle de mes mots à moi en fait. Donc il y a surtout du français, pas mal d'arabe, donc surtout du tunisien, et un petit peu d'anglais. De l'anglais parce que comme pour beaucoup de gens on est pétri de ça musicalement quoi.
Et on touche à l'universalité quelque part.
Peut-être, ouais, enfin
pas que. Non, c'est qu'on dit que voilà, ça peut être la langue universelle, oui. Mais effectivement c'est un grand débat.
Je veux te parler et me confier, verser les mots. Je veux te parler et respirer. Y'en a marre d'avoir le cœur gros, me délivrer et m'évader. Et m'élever, y en a marre d'avoir le cœur barré.
Noël Benkhayem, on écoutait un très court extrait de votre album. Alors justement, Délivrance, on écoutait un petit bout de la chanson qui donnera son titre à votre album. On peut y entendre une référence quand même au roman de l'écrivaine afro-américaine Toni Morrison.
Oui.
C'est quelque chose qui a pu vous inspirer.
Oui, ça me tenait à cœur qu'il y ait un titre aussi qui fasse un clin d'œil à cet art cousin pour moi de la musique qui est la littérature et qui me nourrit beaucoup. Et Toni Morrison, il y a vraiment plusieurs dimensions dans son travail. Il y a une dimension évidemment romanesque, mais aussi une dimension politique qui me tient à cœur. Et une dimension aussi un peu mystique, un peu spirituelle. Et pour cette chose-là, il y a une profondeur qui me touche particulièrement. Et puis à la fin de ce roman, Délivrance, il y a une naissance. Et mon album est aussi traversé par ça. Donc, je sais pas, c'était assez évident que ce titre soit celui-là.
Je fais un bond en dehors de votre album et on reste dans la musique, parce que pendant le confinement, chaque dimanche, vous avez offert du live qui a été relayé sur Facebook par l'Institut du Monde Arabe. Comment est-ce que vous avez imaginé ce partenariat? Comment est-ce que ça s'est mis en place pour retrouver votre public?
D'une manière très organique, en fait. C'était vraiment au début quand on voyait que tout s'annulait. Moi, je commençais toujours tout juste à être dans une énergie de dynamique vers l'extérieur. C'était pas du tout dans une période où j'avais envie de me replier ou d'écrire. Au contraire, j'étais dans un moment où j'avais envie de partager. Puis les concerts et les perspectives s'annulaient les unes après les autres, comme pour tout le monde. Et puis du coup, moi qui n'avais pas trop exploré pour le coup le jeu des réseaux, je suis un peu à l'ancienne. J'ai plutôt commencé par les groupes, puis les bars, des choses comme ça. Et j'ai pas construit du tout mon parcours via YouTube ou Instagram, mais là tout d'un coup c'était des outils qui étaient là, puis ça a commencé par une reprise dans mon salon de Chapraled qui s'appelle Walil Dark, qui veut dire rentre à la maison, et j'avais posté ça pour rigoler, puis ça avait fait des milliers de vues et je voyais que ça se partageait.
Ça a été fédérateur à cet endroit-là.
Sur le moment, et puis après je me suis dit pourquoi pas faire vraiment, plutôt que de faire une reprise un peu en rigolant, vraiment des petits concerts et organiser ça, puis on en a fait 2-3 comme ça, et là Lima, avec qui on avait un projet de date à l'automne, qui eux aussi étaient désespérés de leur dynamique s'arrêter, m'ont dit est-ce que ça te dit qu'on crée du contenu ensemble et qu'on se... Moi j'ai dit oui bien sûr, et c'était voilà.
On parlait de l'importance de la littérature dans votre vie et dans votre parcours. Vous serez bientôt sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris le 14 septembre, si je ne m'abuse, pour la première fois ou pour la première de Où vont les dunes, avec le metteur en scène et comédien Marcel Bozonnet. Vous vous y inspirez de poèmes également. Oui. qu'est-ce que qu'on pourra découvrir dans ce spectacle ou concert littéraire, je crois, nommé comme ça.
Oui, oui, en tout cas, c'est vraiment pas mon concert, c'est une performance où je suis plutôt interprète. Il y aura du chant, bien sûr, mais
vous serez avec Nassim Kouti.
Nassim Kouti, ouais, qui sera dans un écrin très électrique, puisqu'il sera tout du long à la guitare électrique, alors que dans mes concerts, il navigue entre la guitare folk et différentes influences. Mais là, on est vraiment dans une partition un peu planante tout du long avec un seul instrument, donc la guitare électrique, que je prends aussi moi parfois, et on est vraiment proche des mots. Le point de départ, c'est des poèmes d'une auteure qui s'appelle Souad Labise, une poétesse contemporaine, et Marcel, donc qui est un comédien vraiment que j'admire énormément, qui a une façon de dire les mots, qui a tellement de métiers, mais qui a aussi un espèce de d'instinct comme ça des mots, et il m'apprend beaucoup, et je dis avec lui donc des poèmes de Souad. Donc on est parti de ces poèmes là et puis on a greffé des passages de Coltès, des passages...
Bernard-Marie Coltès,
Audrey Lorde, des auteurs dont on a eu l'impression que ça pouvait rentrer dans cette partition pour raconter un peu la force poétique et politique de l'art, on va dire. Je sais pas, c'est un peu... Il faut venir.
On vous retrouvera le 14 septembre sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris pour Où vont les dunes. Je rappelle que votre album s'appelle Délivrance. Il paraîtra le 25 septembre chez Capitole. Vous serez également dans la capitale le 26 septembre au Festival de la Goutte d'Or, le 28 à l'Institut du Monde Arabe, c'est le retour, et puis enfin à Alès le 14 novembre, et également peut-être un recueil de poésie qu'on attend au mois de mai.
On peut le dire.
Merci beaucoup.
Et l'album sortira chez Pias.
Ah, chez Pias, c'est bien. Je raconte n'importe quoi. Mais oui, alors, merci beaucoup, Nawel Benkraïen.
Merci.
On écoute une nouveauté, le retour, lui aussi poétique, du trio britannique London Grammar, originaire de Nottingham. 3 ans d'attente, joliment résolu, avant-hier, avec la sortie d'un nouveau titre. On écoute Baby, It's You.
Changing, see them everywhere. In my veins like lightning, I don't even care. And the crowd is heavy, I don't wanna move. All these colors in me, but all I see is you. And nothing else matters.
London Grammar, Baby It's You dans le Mac de l'été qui est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec Flavia Coelho et Octave Noir dans quelques instants. Le journal avant de retrouver Kathleen Evin pour l'humeur vagabonde.